Donc je suis Marie Ravansky, moi je suis sociologue donc à l'UMR Ardèvre, au CIRAD. Donc je vais vous présenter une communication alors, qui n'est pas encore complètement aboutie puisqu'elle porte sur EPBase. Vous savez, EPBase c'est cette plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques qui est encore assez récente. Et donc il y a encore quelques éléments qui sont, c'est pas tout à fait abouti sur certaines dimensions, mais je pensais que c'était intéressant quand même de présenter nos premières réflexions sur cette plateforme. Donc, je me suis intéressée donc au savoir qui était mobilisé dans EPBase et la question de la pluralité, de la sélection des connaissances dans EPBase est le thème donc que je vais traiter ce matin. Donc quelques points de rappel pour commencer. Donc EPBase a été officiellement créé en 2012. C'est vraiment l'aboutissement d'un long processus de mise à l'agenda de la biodiversité dans les arènes internationales. La biodiversité a vraiment été construite comme un problème public depuis plusieurs décennies. Et la création de EPBase marque bien l'aboutissement de la construction de ce problème en problème public. Et donc EPBase, c'est ce qu'on appelle une interface science politique. L'interface sciences politiques de la biodiversité, en l'occurrence, qui correspond eh bien, à un processus d'institutionnalisation, d'un processus permanent d'évaluation des connaissances, qui est souvent comparé à la success story du GIEC, qui est, comme vous le savez, un processus permanent d'évaluation des connaissances sur le climat. Et donc, un petit peu rapidement, l'EPBase s'est présenté comme étant le GIEC de la biodiversité, même si on le verra, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il existe vraiment des distinctions entre les deux interfaces sciences politiques. Donc, pour ma part, je me suis intéressée à la place de la diversité des savoirs dans EPBase, et donc je me suis posé la question, alors pas toute seule, notamment avec Denis, et puis dans le cadre plus largement d'un programme scientifique qui s'appelle CIRCULEX, d'une ANR qui s'appelle CIRCULEX, avec dans laquelle sont impliqués des juristes notamment, on s'est demandé comment les différents savoirs sont-ils sélectionnés dans EPBase, dans cette interface sciences politiques. Ce qui nous a amené à réfléchir sur cette notion d'interface sciences politiques. Cette notion interface sciences politiques est vraiment très utilisée dans les arènes environnementales à l'échelle internationale, pour qualifier des espaces hybrides où des scientifiques, des experts, des décideurs interagissent pour sélectionner et organiser les connaissances qui doivent en gros aider à la décision et donc à la production de normes et d'actions publiques. Alors cette conception d'interface sciences politiques suppose, les termes utilisés, l'existence de deux mondes indépendants, la science d'un côté et le politique de l'autre, qui seraient donc séparés par des frontières, et où certaines organisations auraient un rôle clé et organiseraient les échanges, l'interface entre science et politique. Or, cette conception, elle est un petit peu binaire, elle est dépassée. Les science studies, notamment avec Jazanov, ont montré que conception binaire n'était pas pertinente du tout et qu'au contraire, eh bien, il y avait plutôt une imbrication, une étroite imbrication entre science et politique et que les relations entre science et société eh bien, ne pouvaient être séparées de cette façon binaire. Alors, plus précisément, Dominique Pestre, qui est un des tenants des science studies, eh bien, a introduit la notion de régime de production des connaissances, le régime de production, de régulation et d'appropriation des connaissances pour essayer de caractériser les modalités de relations entre sciences et société, pour éviter de les penser de façon binaire. La notion de régime de production des connaissances proposée par Pestre eh bien, englobe l'ensemble des règles et des configurations institutionnelles qui régissent les relations entre science et société. Alors nous, dans EPBase, on a préféré utiliser la notion de régime de sélection des connaissances, et pas de régime de production comme Pestre, parce que EPBase ne produit pas de connaissances en tant que telles, mais les évalue, enfin, en évalue et en sélectionne. Donc, on utilisera plutôt la notion de régime de sélection des connaissances pour essayer de comprendre quelles sont les relations entre science et politique dans EPBase. L'hypothèse générale que je vais défendre ce matin est la suivante. Le régime de sélection des connaissances des interfaces sciences politiques de la biodiversité a évolué vers une reconnaissance de la diversité des savoirs scientifiques, c'est-à-dire que ce ne sont plus seulement les sciences de la vie qui vont être prises en compte, mais également les sciences humaines, les sciences sociales, et également une reconnaissance de la diversité des savoirs non scientifiques, des savoirs produits par les populations indigènes, par le secteur privé, par les ONG environnementales et autres, et ce, dans une dynamique de co-construction, c'est-à-dire d'étroite imbrication entre sciences et politique. Alors, cette ouverture, cette reconnaissance de la pluralité des savoirs se caractérise paradoxalement, c'est la deuxième partie de notre hypothèse, aussi par un processus de sélection. C'est-à-dire qu'à la fois, on va reconnaître une diversité de connaissances tout en observant un processus de sélection de ces savoirs. Alors, pour démontrer ce double mouvement, à la fois d'ouverture et de sélection, je suivrai le plan suivant. Dans la première partie, j'analyserai la dynamique historique de reconnaissance de la pluralité des savoirs dans les interfaces sciences politiques de la biodiversité. Donc, je vais regarder en gros ce qui s'est passé avant EpiBase. Dans la deuxième partie, on s'intéressera à ce qui se passe aujourd'hui dans EpiBase, même si, comme je vous le disais, on a peu de recul, hein, parce qu'officiellement, la plateforme est née en 2012. Hein, donc, on analysera la reconnaissance de la pluralité des savoirs scientifiques aujourd'hui dans EpiBase, à travers notamment la production du premier rapport qu'a proposé EpiBase, qui porte sur la pollinisation, le rôle des pollinisateurs. Et puis, dans la troisième partie, brièvement, j'essaierai d'analyser aujourd'hui encore la place et la sélection des acteurs non scientifiques dans EpiBase. Donc, le business, les peuples indigènes. Mais bon, comme je vous le disais, il faudra que j'aille un petit peu vite sur ces deux dernières parties. Donc, commençons par la première partie, la partie historique. Je l'ai intitulé « Transformation du régime de sélection des connaissances dans le domaine de la biodiversité vers une plus grande intégration de la pluralité des acteurs et des savoirs scientifiques ». Donc, la première SPI, la Science Policy Interface, a été créée en 1988 avec le GIEC. Dans le domaine de la biodiversité, la plateforme, l'interface science politique équivalente au GIEC a été créée seulement en 2012, comme je vous le disais, avec l'EpiBase. Par contre, il y a eu deux épisodes précédents, ponctuels, qui ont en quelque sorte été des interfaces sciences politiques de la biodiversité, mais qui n'ont été que des épisodes ponctuels. Il y a d'abord eu le Global Biodiversity Assessment, qui a eu lieu en 1992 jusqu'en 1995, et puis il y a eu le Millennium Ecosystem Assessment entre 2001 et 2005. Pour rappel, le Millennium Ecosystem Assessment, c'est l'interface qui a donné lieu à la mise en politique de la notion de service écosystémique. Donc ce qu'on a fait pour essayer de comprendre l'évolution des interfaces sciences politiques de la biodiversité, on a comparé ces trois exercices. Le Global Biodiversity Assessment, 92-95, le Millennium 2001-2005, et puis l'EpiBase aujourd'hui. Pour essayer de comprendre comment a évolué la prise en compte des connaissances scientifiques et non scientifiques dans ces interfaces. Donc, je passe sur la méthodologie. On a travaillé avec Denis, on a regardé précisément quel avait été le design institutionnel de ces trois exercices. Et puis, on a proposé deux variables à partir des travaux de Jazanov pour comparer ces trois interfaces sciences politiques. La première variable, c'est la structure et la gouvernance de ces trois exercices. Et puis la deuxième variable, c'est la question même de l'intégration de la diversité des savoirs. Alors, je vous propose le tableau suivant. J'espère que c'est suffisamment lisible. En première colonne, vous avez les différentes variables, la structure et la gouvernance, et puis ces sous-variables, la structure du budget, les instances de pilotage, l'architecture, la composition, et puis des instances de ces interfaces, la façon dont elles sont organisées, et puis la deuxième grande variable, l'intégration de la diversité des savoirs. Deuxième colonne, vous avez le premier exercice, le Global Biodiversity Assessment, en deuxième, le Millennium, et dans la troisième colonne, EpiBase. Alors, j'ai passé sur les premières la première variable très vite. Ce qu'on peut voir, c'est que le Global Biodiversity Assessment, c'était vraiment un exercice de type scientifique, piloté par des scientifiques, dominé d'ailleurs par des scientifiques du Nord, qui a d'ailleurs eu très peu d'impact politique dans la mesure où les décideurs ont estimé qu'il avait été uniquement produit et piloté par des scientifiques et qu'il n'était pas compréhensible par les décideurs, qu'il ne répondait pas à une demande publique, à une demande politique. Ces critiques ont été prises en compte dans le Millennium à partir de 2001 jusqu'en 2005. On voit que le Millennium était piloté de façon différente. Il y avait à la fois dans les instances de gouvernance des scientifiques et des politiques. Les experts qui ont produit et évalué le rapport du Millennium étaient à la fois des experts scientifiques, mais il y avait aussi des acteurs politiques, des acteurs du Sud, par contre, étaient encore majoritairement absents. Et puis, si on regarde l'IPBase, alors là, on n'est plus dans une interface ponctuelle, comme c'était dans le cas dans les deux premiers exercices, mais on est dans une interface de type GIEC, puisque tous les ans, la plénière de l'IPBase se réunit. Les instances de pilotage sont très différentes des deux instances de pilotage précédentes, pardon, puisque on est dans une dynamique intergouvernementale avec donc une instance qui est dirigée par une plénière composée des différentes délégations gouvernementales. La composition, elle aussi, a évolué puisqu'on consulte des scientifiques qui évaluent des connaissances scientifiques qui sont validées par les États, comme c'est le cas dans le GIEC. Concernant maintenant l'intégration de la diversité des savoirs, ce qu'on peut dire, c'est que le Global Biodiversity Assessment, le premier exercice, il était pluridisciplinaire dans la mesure où on avait beaucoup de sciences de la vie, un tout petit peu d'économie. Les savoirs étaient uniquement des savoirs scientifiques, et puis c'était un cadrage, un framing assez restreint de la biodiversité, de l'écologie. Le Millennium, ça évolue. On a une interdisciplinarité, même si elle est un peu plus limitée. C'est les savoirs scientifiques qui dominent, et ponctuellement, on fait quand même appel à quelques savoirs produits par le business, les indigènes. Le cadrage est un peu plus ouvert, on essaye d'intégrer les critiques, notamment essayant de développer des approches multi-échelles, et puis une approche un peu plus ouverte, alors particulière, de la biodiversité à travers la promotion de la notion de service écosystémique, mais c'est quand même plus ouvert que ce qui avait été proposé dans le cadre du Global Biodiversity Assessment. Et puis, le troisième exercice, l'IPBase, là, on cherche à avoir une interdisciplinarité étendue. Il y a une diversité de savoirs qui sont convoqués. Alors, il faudra voir dans quelle mesure cette convocation est réelle ou pas, mais il y a bien sûr la production de savoirs scientifiques par les scientifiques, mais également des savoirs produits par les indigènes, par les entreprises. Le cadrage a essayé d'être plus ouvert que ne le suggérait la notion de service écosystémique, puisque la notion de service écosystémique était critiquée de par son caractère trop anthropocentré, mais trop utilitariste. Donc on a essayé de développer un cadrage un peu plus ouvert. Donc voilà l'évolution des interfaces sciences politiques de la biodiversité, donc qui s'orientent, d'après une première hypothèse, vers une plus large intégration de la diversité des savoirs scientifiques et non scientifiques. Alors, cette ouverture s'explique notamment, je ne vais pas développer ici, mais par le poids croissant des peuples indigènes et des pays du Sud dans ces négociations internationales, et les interfaces sciences politiques ne sont pas étanches aux négociations internationales. Elles sont vraiment perméables aux enjeux des négociations internationales de l'environnement, et ça se traduit dans l'interface qui est IPBase. En plus de ces acteurs marginalisés, en quelque sorte les peuples indigènes et les pays du Sud, bien sûr, lorsque la question de la création d'une interface sciences politiques s'est posée, les ONG environnementales, les représentants du secteur privé qui intervenaient de longue date dans les négociations internationales, ont légitimement souhaité avoir leur place dans IPBase. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui explique aussi pourquoi ils ont leurs savoirs ont été reconnus dans IPBase. Alors, maintenant, essayons de confronter cette évolution à ce qui se passe aujourd'hui dans IPBase. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans IPBase concernant d'abord la place des savoirs scientifiques? Alors, comme je vous le disais, cette partie-là, elle est un petit peu... elle n'est pas tout à fait aboutie parce que, comme je vous le disais, IPBase a été créé en 2012. IPBase n'a pour l'instant produit qu'un seul rapport scientifique, c'est le rapport sur la pollinisation, sur le rôle des pollinisateurs, qui n'est pas d'ailleurs encore publiquement sorti. Donc ce que je vous propose ici, c'est vraiment quelques premiers éléments qui donnent à réfléchir, mais c'est pas tout à fait abouti, tout à fait exhaustif. Je vous ai mis juste ici un slide sur lequel je vais passer très vite, qui permet juste d'avoir quelques repères pour vous dire que IPBase, donc, vous avez une plénière, qui est une instance gouvernementale de décision, un bureau, un MEP, donc c'est un Multidisciplinary Expert Panel, qui est en gros la fonction scientifique et technique de l'IPBase, des stakeholders, des observateurs et donc des experts qui sont chargés à la demande de la plénière et pilotée par le MEP, de produire des évaluations, et notamment, en l'occurrence, on leur a d'abord demandé à ces experts de produire une évaluation sur la pollinisation. Voilà, rapidement. Donc, cette première évaluation sur la pollinisation a débuté en 2014, donc vous voyez que c'est très récent, et donc c'est à travers la production de ce premier rapport qu'on va essayer de voir quelle est la place des scientifiques dans IPBase. Alors, juste quelques premiers éléments de contexte, hein. Le choix de la pollinisation pour IPBase c'est un sujet qui était perçu comme étant facile. Facile pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà des réseaux qui étaient disponibles, des réseaux d'experts qui étaient disponibles, parce que la FAO avait lancé un programme d'évaluation du rôle des pollinisateurs dans la production agricole et de façon sous-jacente, la question des pesticides s'était forcément posée. Et puis, il y avait également plusieurs projets européens qui existaient sur la question. Donc, pour IPBase, la pollinisation, c'était un sujet facile. Parce qu'il y avait des experts qui étaient disponibles et c'était donc facilement... ils étaient facilement embauchables, recrutables dans IPBase. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en juin 2014, eh bien, IPBase rend public la liste des 62 noms d'experts du rapport sur la pollinisation. Et parmi ces 62 experts, eh bien, deux sont issus du secteur privé, un de Bayer et de l'autre de Syngenta. Et donc, à travers eh bien, la médiatisation de cette liste et de ces deux experts du secteur privé, eh bien, la controverse sur le rôle des néonicotinoïdes, donc des pesticides, dans le déclin des abeilles, eh bien, va s'exprimer dans IPBase, en fait, hein. C'est à travers la sélection des experts et la présence de ces deux experts du secteur privé, eh bien, qu'il va y avoir vraiment un battage médiatique assez important, à la fois dans les arènes scientifiques, hein, il va y avoir plusieurs articles dans Science qui vont dénoncer la présence de ces deux experts et interroger la crédibilité de IPBase, et à la fois aussi dans les arènes un peu plus médiatico-politiques, puisqu'il y a un article qui paraît dans Le Monde de Foucard et qui dénonce, eh bien, en gros, le conflit d'intérêts dans lequel sont... s'inscrivent ces deux experts et Foucard eh bien, s'interroge sur lui aussi la crédibilité de l'IPBase. Il y a la blogosphère, tout un tas de tweets. Donc pour vous dire qu'il y a une importation ici de la controverse socio-technique sur la surmortalité des abeilles qui va émerger dans l'IPBase à travers la sélection des experts. Donc on voit que c'est un enjeu vraiment important. Alors, du coup, nous, on est allé voir comment, officiellement, les 62 experts avaient été sélectionnés. Parce qu'il faut bien sûr savoir que la secrétaire générale d'IPBase, Larry Audry, a répondu aux articles dans Science, en publiant aussi les articles dans Science, et en disant, nous, il n'y a aucun problème, on suit les procédures qui sont les mêmes que celles du GIEC, et IPBase a le droit d'inscrire, d'impliquer des acteurs qui sont issus de la société civile et en l'occurrence du business, dans la mesure où ces personnes recrutées ont également toute une liste de publications qui attestent bien qu'elles ont une expertise scientifique sur la question. Alors, donc, du coup, nous, on est allé voir quelles étaient les procédures qui avaient été suivies par IPBase. Donc je passe, hein, c'est en effet les procédures classiques qui sont les mêmes que celles suivies par le GIEC. Le MEP, l'organe scientifique et technique de l'IPBase, est conseillé par des membres du bureau qui sélectionnent les co-chairs et les coordinating authors du rapport sur la pollinisation et qui vont participer, ces co-chairs et ces CLAS, là, à la sélection des autres membres du groupe d'experts sur la pollinisation. Donc les procédures, les règles sont bien identifiées. Il y a deux critères qui sont mis en avant. Un premier critère pour sélectionner les experts qui est l'excellence des candidats, la pertinence de leur expertise. Et puis le deuxième critère officiel, eh bien, c'est les exigences de gender balance, de diversité des systèmes de connaissances, de représentation géographique. Hein. Il faut quand même qu'il y ait un équilibre entre pays en développement et pays développés, même si le premier critère, bien sûr, c'est l'excellence. Bon, résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous présente ici la vision un peu officielle. Hein. Plus des trois quarts des 62 experts sont des experts en sciences de la vie. On compte quatre économistes et une anthropologue. Bon, nous, on a essayé de regarder un petit peu quelle était l'autre facette du miroir. Quel processus de sélection au concret ? Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que les report chairs et certains coordinating lead authors, en fait, c'est les experts qui dirigent les chapitres, hein, sont d'abord sélectionnés pour participer au choix des autres experts, et il y a des manœuvres pour sélectionner les experts qui leur semblent pertinents. Hein. L'expert qui va recruter son doctorant ou son ex-doctorant, bon, des choses comme ça. On va essayer aussi de dire, bah, tiens, tu peux pas... passer par ce pays-là parce que tu fais partie de la région des Nations Unies où on a suffisamment d'experts, bah tiens, essaye de passer par ce pays-là parce que là, tu pourras rentrer dans, bon, des façons assez pas très étonnantes de sélection un peu officieuse des experts. On est allé un petit peu plus loin. On a réalisé une enquête qualitative, pas auprès des 62 experts, mais... Enfin, auprès des 62 experts à travers leur CV, et on a réalisé 16 entretiens, dont 10 auprès du chapitre 2. Le chapitre 2, c'était le chapitre qui était le plus controversé, hein, qui est le plus controversé, puisque c'est celui qui porte sur les raisons du déclin des abeilles. Bon, ce dont on s'est aperçu, à partir des entretiens menés auprès de ces 10 personnes, parmi les 12 du chapitre 2 sur le déclin des abeilles, c'est que on avait en quelque sorte une distribution entre les acteurs qui avaient une position extrêmement tranchée sur les causes du déclin de la pollinisation. C'est-à-dire que sur les 12, il y en a deux qui ont une position extrêmement tranchée. La position, c'est, je vais aller vite, hein, c'est le représentant de Syngenta, hein, un parmi les 62, qui dit que les pesticides ne peuvent être reconnus comme étant une des causes de la surmortalité des abeilles, et un deuxième expert parmi les 12 qui, lui, au contraire, pense que il y a une multitude de facteurs, certes, mais que le facteur dominant qui explique le déclin des abeilles, eh bien, ce sont les pesticides. Donc on en a deux qui ont des positions tranchées. On a un deuxième type de catégorie qui composé de 7 experts qui ont des positions nuancées sur la question, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu de position publique ni scientifique tranchée sur la question. Et puis, étonnamment, on en a quand même aussi 3 qui n'ont pas de position et pas d'expertise sur la question. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la question de la pollinisation, ils n'ont pas de publi là-dessus, ils n'ont ni sur le déclin de la surmortalité des abeilles, ni sur les abeilles. Hein, on a un qui... fait partie d'une ONG environnementale africaine et qui est expert de l'eau, hein, par exemple. Donc, bon, des choses assez particulières. On voit bien que le critère de l'excellence, là, il n'a pas été mobilisé de la même façon pour tous. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce régime de sélection des connaissances a été confronté à une situation de controverse socio-technique et que nous, ce qui nous apparaît, c'est pour ça que c'est encore... à débattre, hein, c'est que les prises de position publiques et scientifiques des experts ont été prises en compte dans le recrutement. On voit une étroite imbrication entre sciences et politique ici. Si on prend La plupart des experts sur la question du déclin des abeilles, ils ont une position. Et là, on est plutôt allé chercher des experts qui avaient des positions nuancées sur la question, alors que si on prend les experts les plus reconnus sur la question, il y a des clivages. Et ce ne sont pas les experts qui sont au cœur de ces clivages qu'on est allé chercher. On est plutôt allé chercher des experts qui avaient des positions nuancées, voire pas de position. Et donc, ce qu'on a plutôt, ça nous laisse plutôt penser que le processus de sélection des experts a plutôt essayé d'étouffer ou en tout cas d'encadrer fortement la controverse scientifique. Et donc, on peut légitimement se poser la question du rôle de cette interface science politique du GIEC qui semble avoir eu pour fonction ici, en quelque sorte, de scientifiser des questions politiques, quoi. Bon, voilà, c'est une piste et je ne suis pas allée plus loin et ce sera l'occasion du débat. Je ne sais pas où j'en suis. 26. Ouais. Troisième partie, je vais essayer d'aller assez vite. Je voulais quand même aborder ici avec vous quelques points, en tout cas, pour avoir à l'esprit la question cette fois-ci de la place des connaissances non scientifiques. Il faut savoir que depuis 2008, dans Epibase, a été lancée une dynamique de construction du groupe des stakeholders. Qui est pilotée par l'IUCN et l'IXIU Diversitas, hein, qui est une société savante internationale sur les questions scientifiques et de diversité, de biodiversité pour Diversitas, donc pour essayer de soutenir le programme de travail de IPBES. L'idée, c'est qu'il faut impliquer des stakeholders dans IPBES parce que IPBES doit impliquer ses utilisateurs. Enfin, plus précisément, les stakeholders sont à la fois des producteurs de connaissances, ils détiennent des connaissances, les peuples indigènes détiennent des connaissances sur la biodiversité, il faut pouvoir mobiliser ces connaissances, le business aussi, les ONG environnementales aussi, et les gouvernements, les organisations internationales, et ce sont également à la fois des utilisateurs, c'est-à-dire que lorsque IPBES aura produit des connaissances, enfin, évalué, sélectionné des connaissances et proposé des normes d'action publique, hein, ou en tout cas les orienter, eh bien, ces stakeholders sont les utilisateurs, c'est-à-dire ce sont eux qui devront aussi les mettre en œuvre. Donc l'idée, c'était vraiment d'intégrer ces stakeholders dans la dynamique de IPBase. Comme je vous le disais, pour IPBase, les stakeholders, ce sont à la fois des représentants des gouvernements et des organisations internationales, des scientifiques, on retrouve les scientifiques aussi ici, des groupes indigènes, des ONG, le secteur privé. Donc depuis 2008, il y a cette volonté d'impliquer ces stakeholders et de constituer un groupe des stakeholders. Alors nous, ce qu'on a fait dans Circulex, eh bien, on a essayé de prendre les stakeholders qui ont participé au moins à deux réunions des stakeholders d'IPBase depuis 2008, ce qui nous a permis, d'identifier 170 organisations qui ont participé au moins deux fois à une réunion des stakeholders. Vous avez une majorité d'organisations qui appartiennent à l'université, où ce sont des centres de recherche, donc 88 sur les 170. Vous voyez que les stakeholders comprennent une grande partie de scientifiques, alors qu'ils vont aussi être chargés de produire des rapports scientifiques. Vous avez également 33 organisations qui sont de type ONG environnementale, 17 des ONG de développement, 12 des ONG de peuples indigènes, 8 du secteur privé, 7 autres, ce sont des associations professionnelles et des plateformes, enfin 5 de la biodiversité qui ont un statut un petit peu hybride. Bon, c'est pour vous donner une idée rapide. Ce sont des organisations particulièrement hétérogènes, de par leur nature, on l'a vu, mais aussi de par les capacités d'influence dont elles disposent. Vous avez à la fois dans ces 170 une petite ONG africaine avec un voire deux salariés qui dispose de très peu de ressources, et puis vous avez à côté le WWF. Vous avez également des disparités en termes de capacité, bien sûr. Hein, c'est compliqué d'aller dans ce type d'instance. Il faut des moyens financiers, également cognitifs. Et puis, il faut savoir également qu'une partie ces organisations sont aussi dans d'autres arènes environnementales. C'est-à-dire qu'une partie d'entre elles sont dans le GIEC, dans l'IPCC, hein, font également partie des conventions sur la diversité biologique, sur la COP, dans les COP climat. Donc certaines d'entre elles ont vraiment cumulé de l'expérience dans les arènes internationales. Elles ont un réseau, elles ont des relations privilégiées avec des délégations. Donc là encore, il y a une diversité vraiment de capacités. Et puis, il faut également noter que ces stakeholders n'ont pas tous les mêmes capacités d'influence dans EPBase, dans la mesure où certains ont d'autres canaux d'influence que le groupe des stakeholders. Je m'explique, les stakeholders donc, sont sollicités par EPBase, mais parmi les stakeholders, prenons le secteur privé par exemple, on sait que les entreprises privées ont des relations privilégiées avec des délégations et c'est principalement par les délégations nationales qu'elles vont essayer d'influencer le processus. De même, les scientifiques disposent de la production des rapports scientifiques pour influencer le processus. Les peuples indigènes, par contre, c'est plus compliqué. Hein. On voit que eux, c'est leur principal canal d'influence, même si certains ont des relations privilégiées avec les délégations. C'est toujours un petit peu compliqué entre ces peuples indigènes et les délégations. Venons-en maintenant au processus de sélection dans le groupe des stakeholders qu'on a pu observer, notamment en faisant une ethnographie des journées des stakeholders. Alors, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait un contrôle assez fort des organisateurs de l'ICSU et de l'IUCN sur ces stakeholders. Il y avait vraiment des procédures de contrôle des stakeholders qui étaient assez... qui sont en fait sous-jacentes à l'organisation même du groupe des stakeholders. Par exemple, les ambiances de réunion sont particulièrement policées. Il faut utiliser des PowerPoint, la parole donc est policée, il faut utiliser un ton diplomatique. C'est une dynamique très lente au sein du groupe des stakeholders. On passe beaucoup de temps sur les procédures et sur l'acceptation des procédures, même si il y a des critiques sur ce qui est fait dans le groupe des stakeholders, notamment de la part des peuples indigènes qui voudraient que ce groupe des stakeholders, ça soit autre chose, on a cette dynamique-là qui est imposée par les organisateurs. Les termes employés également sont empruntés à la sémantique anglo-saxonne du management. On parle de capacity building, de benchmarking, de consensus building. Ce sont des termes qui ont une valeur émotive faible, mais par contre, qui ont une valeur instrumentale et fonctionnelle assez forte dans la mesure où il s'agit bien d'éviter toute référence idéologique ou politique. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a des sanctions à ceux qui tombent en quelque sorte sur ceux qui ne suivent pas ces règles informelles. C'est-à-dire que, je passe les détails, mais on avait un représentant de la SCB qui est en quelque sorte un lobby scientifique, mais assez virulent, hein, qui pro-conservation, qui avait adopté un ton un peu trop, pas suffisamment policé, un peu trop brut, et qui a dû faire des excuses publiques, à la fois en plénière et pendant les réunions des stakeholders, parce qu'il était sorti du rang, sorti du rôle qu'on attendait de lui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ces réunions de stakeholders servent en quelque sorte d'instance de socialisation secondaire, dans la mesure où il s'agit d'intérioriser de nouvelles normes pour certains, ou pas, puisque certains sont habitués à ces normes et d'autres pas, des façons de dire, des façons de faire qui résonnent bien sûr avec les attentes du groupe des stakeholders. Cette socialisation pousse à l'éviction, voire à l'auto-exclusion de certains stakeholders qu'on a pu rencontrer. Par exemple, un des représentants de Friend of the Earth, il est un peu revenu sur ce qu'il avait dit, mais a dit qu'il n'irait plus parce que c'était pas pour lui, parce qu'il n'avait pas l'opportunité de dire et de défendre ce qu'il souhaitait dire et défendre dans cette instance qui est censée être ouverte. On n'est pas dans la plénière ici, on est dans le groupe des stakeholders. Donc, des acteurs qui ne se reconnaissent pas dans le framing, dans la façon d'évoluer dans ces arènes, et qui n'ont pas les compétences demandées. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que j'ai été compréhensible quand même sur cette dernière partie. Je suis allée un petit peu vite. Pour conclure, donc On a montré dans la première partie qu'il y avait vraiment une évolution en faveur d'une plus grande ouverture aux connaissances scientifiques et non scientifiques dans les instances, dans les interfaces politiques de la biodiversité en général et dans l'IPBES en particulier. Alors, on a également souhaité montrer, j'espère que j'ai réussi, qu'il y avait un paradoxe, c'est-à-dire que cette ouverture s'accompagne paradoxalement d'un processus de sélection des connaissances. Il semblerait que, pour aller vite, on ne peut pas prendre tout le monde, il faut sélectionner, on veut bien ouvrir, mais en même temps, on ne peut pas prendre tout le monde, quoi. Il y a déjà 170 stakeholders, ça fait déjà beaucoup, il faut bien... pareil pour les experts scientifiques, hein. On veut bien ouvrir, mais il faut sélectionner. Alors, la sélection des connaissances dans les PIBES est basée sur deux canaux. Comme on l'a vu dans la deuxième partie, le premier canal repose sur la mobilisation de savoirs scientifiques issus de disciplines différentes, la biologie, l'économie, la sociologie. On l'a vu, malgré les souhaits de l'IPBES, il y a quand même encore vraiment une sous-représentation des sciences humaines et sociales dans le processus. Ces savoirs, ensuite, il ne faut pas l'oublier, sont sélectionnés et contrôlés par des experts scientifiques, puis validés par les États, comme c'est le cas dans le GIEC. Le second canal de sélection des connaissances dans l'IPBES est basé sur l'intégration de différents détenteurs de savoir, les knowledge holders, qui sont principalement représentés via le groupe des stakeholders. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait vraiment des tensions entre ces deux canaux et à l'intérieur de ces deux dynamiques. Au sein du premier canal, la sélection des savoirs scientifiques et des experts est perméable aux enjeux politiques. C'est ce que j'ai voulu montrer avec la question de la pollinisation, hein. Il y a vraiment une étroite implication entre science et politique, à laquelle IPBES n'échappe pas, et même orchestre à travers la sélection des experts donc sur la pollinisation. Et puis, au sein du deuxième canal, eh bien, il y a vraiment aussi, on l'a vu, des tensions au sein des stakeholders, avec des capacités inégales des stakeholders et des procédures formelles et informelles qui alimentent la sélection et l'auto-sélection, l'auto-exclusion des stakeholders. Et puis, il existe également des tensions entre ces deux canaux, et ça, c'est une question qu'on ne peut pas encore arbitrer, parce que l'IPBES n'a pas encore été encore suffisamment testé, j'allais dire, mais c'est quelle place on accorde aux connaissances non scientifiques, et peuvent-elles avoir le même statut que les connaissances scientifiques ? Est-ce qu'elles ont la même validité, ces connaissances non scientifiques, que les connaissances scientifiques et quelle place leur accorder, leur attribuer ? Cela se pose notamment pour les peuples indigènes et le secteur privé. Mais on voit aussi que derrière cette question, c'est toute la place des rapports nord-sud qui ressurgit, puisque les experts scientifiques sont encore, malgré les volontés de l'IPBES, des scientifiques du Nord, encore majoritairement, tandis que les connaissances produites par les peuples indigènes, eh bien, sont des connaissances produites par des peuples indigènes qui sont basées au Sud. Et donc, on voit à travers la question de la place accordée aux savoirs scientifiques et aux savoirs non scientifiques, que c'est aussi la question des rapports Nord-Sud qui se jouent.